Je voulais dire à quel point nous recevons ici un auteur extraordinaire qui, pour moi, est parmi les meilleurs et de sa génération et de la génération qui lui a succédé. Et que mon grand regret, c'était que ce travail majeur n'ait pas encore été récompensé par un prix. Et voilà que le prix Töpffer me prend en
C'est chose faite
dépourvu
à présent,
et qu'en plus, il y a 10 000 euros.
mais c'est chose faite en Suisse.
En Suisse.
Nul n'est prophète en son pays. C'est vrai qu'en France, c'est pas encore.
En France, tu
J'ai
as
pas été
été
primé. Non.
sélectionné à de nombreuses
Oh oui.
reprises,
Nous avons été
sans...
sélectionnés ensemble.
car nous avons
Oui.
fait un livre ensemble, effectivement. Mais bon, voilà, peu
Souvent
importe.
nominé, jamais primé.
Puisqu'on en est là, je propose de retracer un peu ta carrière. Ma grande surprise était de découvrir qu'en fait, ton premier album officiel date de 1992. Le savais-tu?
Je te fais confiance.
Et c'est un Pâte de Mouche à l'association.
Ah oui, d'accord.
Donc, il succède d'assez peu finalement à la création de l'association qui date de 1990. Vous connaissez l'association? Ok. Et en fait, quand je regardais ta bibliographie sur Wikipédia, que je vais donc aller corriger puisqu'il y manque 2 ou 3 livres, je me suis aperçu que beaucoup de tes livres au départ étaient probablement des livres liés à l'association et à l'opportunité, non seulement qui t'était offerte, mais aussi, je pense, à la demande pressante de produire pour le catalogue. Parce que, pour la blague, moi, je connaissais ton nom avant même que j'aie pu voir un de tes livres. Oh, qui le fait, ce type extraordinaire, me disaient des gens qui avaient fait les arts déco. Oh, c'est un des meilleurs. Bon, il est chiant, hein, mais alors, il est fort.
Des noms.
Donc c'était un copain qui était client dans la librairie où je travaillais et qui m'avait ramené la pochette du disque des Satellites pour lesquels tu avais
Ah
réalisé des
ouais.
dessins. Et donc, le jour où je t'ai découvert, parce que j'ai essayé donc de trouver tes livres, mais tu ne publiais que dans des revues, pour l'essentiel.
Le psychopathe à l'époque peut-être.
C'était pas encore, non. Tu
Pas
publiais
encore.
pas encore dans Le Psychopathe, tu publiais plutôt dans des
Dans SV Mag.
fanzines comme dans Réciproquement ou des
Ouais.
choses comme ça. Et puis ensuite, dans les revues de l'association, la toute première, qui était donc antérieure
À Lapin,
à Lapin,
Logique de guerre
Logique de
comique.
guerre, et un peu aussi, je crois, dans ce que vous faisiez à Angoulême pour le
Ah
off.
oui, dans le bof, ouais.
Et donc, c'est ton premier livre, ce Pâte de Mouche, et je me suis rendu compte que beaucoup de tes productions étaient liées aussi à des demandes. Il fallait. Donc, pour les revues, pour
Oui.
Lapin. Est-ce que tu as ta conscience que l'association a quand même été un moteur essentiel pour toi, de ce point de vue-là?
Écoute, non, là, je le découvre.
Parce que tu es co-créateur de l'association, cofondateur.
Mais je dis souvent que s'il n'y avait pas eu l'association, je crois que j'aurais pas fait de bande dessinée, tout simplement. C'est aussi bête que ça. À l'époque, c'était. Ouais. Toi, t'es au courant. C'est un peu bizarre de parler de ça avec toi parce que tu connais tout ça, quoi. Enfin,
Oui,
donc,
je
je
connais,
vais
mais.
m'adresser à vous.
Non, mais si tu veux, le fait de reprendre ça point par point de façon chronologique, ça m'a quand même amené à découvrir que malgré des grands livres qui sont apparus à des fréquences assez irrégulières, on sent dans ta bibliographie que tu es quelqu'un qui répond aussi à des impulsions et qui peut-être a besoin de te caler. Le seul livre, en fait, pour moi, qui marque vraiment une décision marquée de ta part, c'est 676 apparitions. Mais
Ouais,
avant d'en
ouais,
arriver là,
ouais,
est-ce que
ouais.
tu peux nous parler justement de cette période des débuts de l'association?
Ben, non, j'ai pas envie.
C'est vrai?
Non, oui, non, c'est vrai qu'à l'époque, ça donnait pas envie. On n'avait pas envie de faire de la bande dessinée, en fait. Si on regardait le paysage tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire fin des années 80, j'avais pas envie de faire ça. Ce que je voyais autour de moi, c'est pas tant que c'était mauvais, c'est que. Comment dire, c'est éditorial ce que je dis. Hein. Il y a plein d'auteurs que j'admirais, mais bon, ils faisaient déjà très bien ce qu'ils faisaient, et les éditeurs, ils proposaient rien d'autre, quoi. Ils proposaient de refaire la même chose en moins bien, quoi, finalement, quelque part, ou à la limite en aussi bien, parce que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux, mais c'était la même chose, c'est-à-dire de la série. Je suis allé en voir quelques-uns quand même des éditeurs de cette époque, avec Lewis Trondheim d'ailleurs. Qui commençait à marchouiller un peu. Ouais, c'était pas excitant. S'il n'y avait pas eu l'association, j'aurais pas fait de bande dessinée. J'avais pas envie de refaire une série ou un album cartonné, 48 pages, couleur, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui amène à constituer le groupe de l'association? Comment est-ce que tu es intégré dans ce groupe?
C'est Jean-Yves Duhaut qui travaillait chez à Hebdogiciel. Eh oui, c'était un canard d'informatique dont le DA, enfin dans le DA, c'était pas le DA, il y a Carali qui bossait là-bas et qui faisait qui leur faisait une planche de bande dessinée. Je crois que c'était hebdomadaire, Hebdogiciel, oui, forcément. Et Jean-Yves, lui, par l'entremise de Carali, avait rencontré toute la bande à Menu et au Lynx. Puis c'est comme ça que je les ai rencontrés, quoi. Et quand il s'est agi de faire Labo, ben j'étais de l'aventure. Et puis après Labo, mais ça a donné.
Ayant fait peu de bandes dessinées à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont convaincus que tu pourras rejoindre le groupe et t'engager dans
c'est vrai, ça,
une carrière d'auteur de bande dessinée.
J'avais rien fait en bande dessinée.
Très peu de choses, à ma connaissance.
Oui, à ma connaissance, non plus.
C'est une cooptation qui passe par Jean-Yves qui...
Ouais, bah Jean-Yves me les a présentés. Mais moi, ça m'intéressait quand même, la bande dessinée. Moi, j'en avais fait à l'école. J'avais suivi les cours de Gott et de Pichard à Dupéret. Un an de Gott, 2 ans de Pichard. Et oui, ça m'intéressait quand même, mais c'est vrai que le paysage n'était pas excitant. Voilà. Et quand j'ai rencontré cette bande-là, ben oui, là c'était... Je me sentais un peu chez moi, quoi. Ça s'est fait tout naturellement, quoi.
Sur ces premiers temps de l'association, vous travaillez de façon très collégiale.
Ouais.
Donc vous décidez de ce qui va sortir, de la forme que doit prendre la revue.
On décide de tout ensemble. Ça se passait chez Menu. On fabriquait même les bouquins à la main, les pattes de mouche.
Exact.
Feuille à feuille, on a graffé. Oui, mais on faisait vraiment tout. Tout ensemble. Il y a même une époque, je crois que c'est quand Menu a eu son deuxième ou troisième môme, il est parti 2-3 mois et on a rapatrié l'assaut pour un petit temps, 2-3 mois comme ça chez moi. À l'époque, j'étais à la Plaine Saint-Denis et j'ai fait... à l'époque, je crois que Matt Conture vivait avec nous, plus ou moins. Et on a même fait ensemble la feuille d'information à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Peut-être le rap de lapin.
Déjà ?
Je ne sais plus. D'ailleurs, c'était assez mauvais, on s'était bien planté.
Ce qui est assez marrant, c'est avec le recul en fait, que je me rends compte, c'est de voir à quel point les 6 fondateurs...
7.
Oui, effectivement, il y a Moquette. Moquette qui est parti presque aussitôt.
Ouais. Ouais.
Qui était dégoûté de la bande dessinée avant même d'en avoir vraiment fait son métier.
Ouais.
Et non, ce qui est amusant, c'est de voir
que... Il se la pétait artiste, quoi. Il voulait faire de la peinture. En fait, ce qu'il a fait, c'est surtout prendre de l'héroïne, principalement, et voilà, quoi. Non, c'est vrai. Bon, mais ça s'est bien terminé, là. Il a arrêté, il va bien.
Il va très bien, c'est sûr. non, mais... En fait, vous aviez tous des styles très différents, des influences très différentes, et aussi, je pense, des aspirations très différentes à titre personnel. Ce qui vous a réunis, évidemment, c'est... Je pense d'ailleurs que le premier comics que vous avez fait porter bien son nom, c'était Logique de guerre. Alors, c'était lié à l'actualité de l'époque, qui était donc la guerre en Irak. Mais je pense que plus fondamentalement, ça décrivait assez bien quelle était votre position vis-à-vis de l'édition 91.
Ah bon ?
Ouais.
Logique de guerre. Ah oui,
Logique de guerre.
Oui, bien sûr.
Et donc, le point commun que vous avez tous, je me rends compte aujourd'hui, c'est que vous étiez très, très peu intégré socialement et très peu préparé à vous déterminer sur le plan professionnel.
Ah bon ?
Ouais, je trouve. Ce qui a donné de la cohésion, au final, à vos styles si différents, si éloignés les uns des autres, et ce qui a produit la richesse de l'association, c'était vraiment cette volonté, je pense, de faire sans la profession. De faire presque même sans la reconnaissance, qui est venue de ce fait assez rapidement. Regarde Lewis, regarde Matt, regarde Stanislas, Menu... Toi, David Bessé, c'est vraiment des styles qui aujourd'hui, évidemment, couvrent le panel artistique de l'époque, mais qui vraiment étaient, de façon assez objective, peu faits pour se marier.
Ah oui, non, mais c'est incroyable que ça ait fonctionné, effectivement.
C'est fou.
Mais d'ailleurs, à l'heure actuelle, à l'association... c'est vrai que Stan, il est un peu à l'extérieur maintenant. Enfin, on est encore 4 à être vraiment actifs, quoi.
Qui ça ?
Enfin, Matt, on ne peut pas dire qu'il soit... Il n'a jamais été très actif, Matt Conture, mais il est encore là, quoi. D'ailleurs, c'est le seul qui a toujours été là. Il n'est jamais parti, lui. Donc, il y a Matt, Lewis, David et moi. Et de fait, étant le dernier Parisien, c'est moi qui m'occupe maintenant un peu de l'association, avec Céline, la présidente, qui se trouve être ma copine aussi. Comme ça, on est les Thénardier. Et oui, c'était un sacré coup de bol que ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'était pas donné. Et puis surtout, c'était un sacré coup de bol qu'on ait des styles aussi différents aussi, parce qu'on a pu ratisser vachement large. Si on avait été très spécialisé dans un genre plutôt qu'un autre, ça aurait pas fonctionné du tout de la même façon. Et là, on était vraiment représentatif d'un truc, effectivement. On couvrait un peu le champ, quoi, de ce qui se faisait à l'époque en bande dessinée. C'était... C'est vrai que c'est super bien gaulé, l'association, quoi. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'y serait pas arrivé.
C'est
quoi,
comme hein. si c'est un dingue. Super directeur artistique, ouais. hyper pointu et hyper visionnaire, était allé chercher ce qui était le plus prometteur en germe dans l'époque.
Ouais, puis, enfin, le plus prometteur, ça, je sais pas, parce qu'il y a des auteurs qui, quand même, ont fait des trucs pas mal dans notre génération sans être passés par l'assaut.
Mais assez peu, au final. Assez peu.
Il y en a quelques-uns.
Bon, bah qui, vas-y. Sont tous venus. Blin. Non, mais Blin a publié à l'association.
Oh, il a fait deux pages dans un lapin.
Non, il a fait plus. Il a publié dans plusieurs lapins, plus des histoires.
Pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il doit être dans deux lapins, peut-être. C'est tout. Hein.
Et il a travaillé avec David B. Si tu veux, il y a quand même des connexions. Après, il y a des connexions qui s'imposent assez rapidement et qui montrent que l'association est vraiment le moteur de cette époque. Ouais. Mais bon, pour revenir à toi, l'autre chose qui m'a beaucoup étonné.
En même temps, on avait du bol, mais en même temps, il y avait besoin de l'association à l'époque. Parce qu'effectivement, j'étais pas le seul, moi, à trouver que le paysage éditorial n'était pas terrible. Le public était prêt. Quand on a commencé l'association, ça a tout de suite un peu marché. Et on a tout de suite vu des gens venir nous voir en nous disant « Ah putain, ça fait plaisir. Moi, j'avais arrêté de lire de la bande dessinée. » Il y a pas mal de gens qui nous ont dit ça à l'époque.
Oui, d'autres avaient arrêté d'en faire et sont venus vous voir aussi. C'était assez logique. Ouais. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ton cas particulier, puisque... Alors même que tu étais celui qui, à ce moment-là, publiait le moins d'albums, tu étais présent dans tous les lapins. T'es...
C'est toujours le cas, d'ailleurs.
Tu es toujours présent dans les lapins, toujours ?
Non, ce que je veux dire, c'est que je suis toujours celui qui a fait le moins d'albums.
Oui, bien sûr.
Je suis un petit producteur.
Ce qui est normal quand on a Lewis en vis-à-vis, on peut faire que moins d'albums.
Oui, non, mais même sans parler de Lewis, je crois que même Menu, il a fait plus de bouquins que moi. Menu, d'ailleurs.
À voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que alors même que donc, tu fais partie de ceux qui publient le moins d'albums, tu es celui qui participe systématiquement à tous les projets de l'association et tu es aussi celui que les autres vont chercher pour faire les projets spéciaux. C'est toi qui fais la couverture du Globe Off, c'est toi qui fais la Clé des Champs qui est le premier cadeau adhérent. Avec une couverture en sérigraphie.
Sérigraphié par tes soins.
Sérigraphié par mes soins. Tu fais le design du Paxson. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qui te sont confiées et qui montrent que tu es aussi, de toute la bande, celui qui recueille le plus d'admiration de la part des copains. C'est une affirmation que je ne te demande pas de partager, mais c'est en tout cas mon observation. Et en fait, tes premiers albums, c'est BSVP, le vrai premier album qui paraît à l'association. C'est un recueil de planches qui sont parues dans Le Psychopathe. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit ton style se déterminer. Puisque ton inspiration aujourd'hui, ça s'est un peu évacué, mais au départ, elle est entre deux choses assez différentes. Tu as un style qui est au crayon, qui est un peu mou, un peu rond, un peu liquide. Et puis, tu as un style qui va beaucoup plus chercher vers Moebius, la gravure, ou Virgin Finlay, qui est un illustrateur américain des années 40, et qui est fait de trames dessinées. Des petits points, des petits traits, c'est très minutieux.
Ouais, vous ne connaissez pas ça. Il y en a un, là, la Clé des Champs. C'est fait sur ce principe-là. Ça imite la gravure façon... C'est les eaux fortes. Le principe de croisillon, quoi.
Avec beaucoup de points aussi, beaucoup de matière, beaucoup de volume. Et d'ailleurs, je sais que c'était quelque chose que tous les autres à l'association enviaient, ce côté très technique et très, très rigoureux qu'il y avait dans ton travail, pas forcément dans ta vie, mais au moins dans ton travail. Et comment tu faisais pour te répartir ? C'était quoi ? C'était l'inspiration ? Tu cherchais encore ?
Espérons. Ah, tu penses qu'aujourd'hui, je cherche plus, c'est bon, je suis arrivé.
Non, je pense qu'aujourd'hui, tu as effectivement toujours des inspirations, pas des inspirations, des techniques différentes, mais que tu les répartis de façon beaucoup plus automatique.
Sectorielle, ouais. Peut-être. Ouais. Enfin, ceci dit, là, j'ai un projet avec Raphaël Meltz, donc une biographie de Marius Jacob. Et l'idée de Raphaël sur ce truc, c'est toujours un peu... une biographie, c'est toujours un peu vain, quoi, de recomposer une vie comme ça. Donc, il a une idée pas conne, c'est de présenter les sources, de les présenter brutes. Parce que Marius Jacob, c'est un type qui a eu pas mal à faire avec la justice. Et il était
assez connu. Parce que je sais pas qui c'est.
C'est un anarchiste début 20e, anarchiste, un mec très intelligent. Il avait un groupe il faisait des cambriolages. Il faisait de la redistribution sociale. Bon, il redistribuait pas grand-chose. Hein. C'était surtout de la redistribution sociale pour lui et ses collaborateurs. Mais bon, c'était comme ça qu'il présentait les choses. Non, mais tout ça était articulé quand même politiquement, quoi. Il écrivait bien. Donc, bref, il y a pas mal de sources, donc judiciaires, journalistiques aussi, policières aussi. Donc, l'idée, c'est de se servir de ces sources-là d'une façon brute, de ne pas les réécrire et de les présenter avec un style de dessin particulier. Ensuite, les deuxièmes sources, c'est tout ce qui est direct, ce qu'il a écrit lui-même en direct. Là, un autre style de dessin.
Donc ça veut dire que ces sources brutes sont présentées, mais tu les dessines. Comment tu interviens là-dedans dans ce processus?
J'ai pas encore commencé.
Tu ne sais pas.
Je les mets en bande dessinée.
Ah, donc tout sera sous forme bande dessinée.
Tout est en forme de bande dessinée, mais il y aura trois styles, quoi, qui rendront compte des sources, en fait. Enfin, il y aura deux styles. Un style pour les sources donc judiciaires, policières et journalistiques. Un style pour les sources directes, ce qu'il écrit lui-même, et puis un troisième style pour ce qu'on va être obligé de recomposer quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que, oui, des styles différents, oui, de la recherche, oui. Enfin, je sais pas, il me semble qu'un artiste à peu près honnête, il se repose pas sur ce qu'il fait, quoi. Mais en même temps, c'est vrai qu'en bande dessinée, il y a un phénomène étrange. Moi, je parle souvent d'une interview qui m'avait un peu choqué de Chaland. Yves Chaland, très grand dessinateur. Et je me souviens d'une interview dans les années 80 où il racontait que quand il était jeune, étudiant, il voulait tout faire. Il voulait dessiner à la fois comme Gire, comme Hergé, comme Franquin. Il voulait tout faire en même temps. Il avait une fringale de dessin comme ça. Puis il raconte qu'un jour, il s'est dit, il faut arrêter les conneries, il faut choisir un style, quoi. Alors, je peux comprendre ça. D'un point de vue, parce que c'est vrai que la bande dessinée, elle a un côté quand même un peu industriel, quoi. Et c'est vrai qu'avoir un style, tout ça, il faut... Bref, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait se cantonner à un style. Enfin, il n'y a aucune raison. Je crois qu'aujourd'hui, la bande dessinée est suffisamment adulte, grande, pour supporter ça, quoi. Qu'on puisse... Je me souviens encore au début de ma carrière, ou au milieu, quoi. Je ne sais pas, il y a encore quelques années, j'avais des libraires qui me reprochaient de... qui reprochaient à des auteurs, comme moi par exemple, de perdre leurs lecteurs. Vraiment, les mecs, ils sont en colère. Quoi. Mais c'est n'importe quoi, t'as vu, il a fait un bouquin dans un tout autre style, c'est quoi ce bordel, quoi. Mais moi, ça me... Ouais, j'ai mis du temps à comprendre où était le problème. Quoi.
Non, il n'y a pas de problème.
Mais si, il y en a un petit.
Il y a un problème commercial.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais c'est un reproche qu'on fait très fréquemment à Blutch. Blutch, lui, a ce parti pris de ne jamais s'arrêter, parce qu'il a identifié qu'il faisait envie à d'autres dessinateurs et qu'il était souvent donc copié dans la partie la plus superficielle de son dessin. Et donc, il a régulièrement choisi non pas de changer de dessin, puisqu'on ne change pas de dessin, il a choisi de changer de technique. Et la technique, effectivement, elle produit un dessin différent, ce qui est d'ailleurs ton cas. Même si toi, tu pousses la chose un peu plus loin, pour ma part, je n'ai jamais douté en voyant tes dessins, qu'ils soient dans un registre ou un autre, que c'était bien toi. Mais effectivement, pour quelqu'un qui peut-être est moins au coup.
Oui, mais c'est pour ça qu'on met le nom de l'artiste sur la couverture, quoi. Ça aide.
On verra en tout cas ce projet où tu pourras, pour la première fois, justement développer ces différents registres en une seule fois. Donc ça veut dire que tu vas aussi éventuellement faire des dessins dans un registre plus humoristique, plus réaliste. Ou est-ce que
tu sais humoristique, je pense pas.
Ça pourrait être marrant, l'anarchie et tout ça. Là, hein,
ah, il a fait 14 ans au bagne quand même, je sais pas.
Ah bah il y a de quoi faire quelques bonnes blagues.
Ouais, sans doute. Dans la chambre d'amour le soir.
Donc est-ce que cette période donc, où tu produis pour le psychopathe, pour Lapin, pour l'association, mais je pense toujours à la suite d'une demande. Tu deviens aussi illustrateur assez rapidement, tu vis de ça, donc tu travailles pour SVM Mag, tu travailles aussi pour Libération, je crois, dès cette époque.
Oui, 94,
Libération. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça modifie ton rapport au dessin, le fait de réagir comme ça à soit des demandes, soit carrément des commandes?
Mais moi, à la base, Pour moi, c'est presque contre nature que de faire des dessins dans l'absolu, quoi. Enfin, par exemple, je travaille aussi avec la galerie Anne Barraud. C'est elle qui est venue me voir. J'aurais jamais imaginé aller voir une galerie pour faire des dessins que des gens achèteraient comme ça, quoi. J'y pensais pas du tout. C'est elle qui est venue me voir. Et quand tu dis que je réponds à la commande, oui. C'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est que pour l'humilité, je ne crains personne. Je suis très fort en humilité. Je suis champion du monde d'humilité.
Comme
en fait.
Le démontre cette affirmation.
C'est une citation d'Alphonse Allais qui avait sorti ça. Bref, non, mais il y a un peu de vrai quand même. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé que j'ai un truc à dire à l'humanité, quoi. Ça me rassure quand quelqu'un vient me chercher, vient me demander quelque chose. Et voilà, quoi. Je me dis, ah bah oui, peut-être que, alors, du coup, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un.
Et c'est ce qui explique aussi ton rapport très particulier à tes originaux. Que tu laisses traîner en général dans les rédactions ou dans les maisons d'édition sur
ton. Ouais, je me suis un peu calmé avec ça. Ouais. Bah quand même, au bout de. Maintenant, j'ai 50 ans. J'ai vu que bon, il y a des gens qui achetaient mes dessins. Ça vaut peut-être quelque chose.
Ouais, bah, oui.
C'est magnifique, hein, ce boulot. Vous savez que moi, je produis de l'argent comme ça quand je veux. Là, je peux vous produire de l'argent. Il me suffit d'un instrument scripteur, un support quelconque. Hop, je fais un dessin.
Et un commanditaire aussi.
Mais non, après je le trouve. Je trouve un collectionneur, il l'achète, quoi. Ça vaut quelque chose. C'est incroyable.
Ce qui est dommage,
moi, j'en reviens pas. Hein.
On ne pourra pas faire de coffee table book qu'il offert avec ses 20 ans de production pour la presse, puisque tout a été quasiment perdu.
Non, la plupart des choses vendues, plutôt. Il y a quelques trucs qui se sont perdus. Quelques trucs offerts, également.
Hein? Également. Je...
Tu en
oui,
sais
oui,
quelque
je,
chose.
Je m'en souviens. Ouais, tu manques jamais de me le rappeler, ça, c'est sûr.
Oh.
Et donc, tu fais beaucoup de livres comme ça qui... sont toujours des pépites. La Clé des champs, pour moi, c'est vraiment un très grand livre. C'est un récit un peu surréaliste qui s'appuie vraiment sur une logique propre au rêve. Donc le dessin est vraiment prodigieux.
C'est muet. Mais ce n'est pas un grand livre, hein, c'est un patte de mouche.
Oui, mais c'est magnifique. J'en ai deux pages d'ailleurs, que je revendrai à l'occasion. Le jour où j'aurai besoin d'argent, tu fais bien de m'informer de ce que tu vaux. Surtout maintenant que tu as eu le prix de la ville de Genève. Et il y a vraiment un livre... Qui t'impose définitivement, je pense, comme un auteur
majeur.
Complet, majeur, effectivement, c'est 676 apparitions de Kilofer. Là, pour le coup...
Ah, c'est celui-là que tu pensais.
Ouais, pour le coup, tu réponds pas du tout à une demande. Peut-être qu'on peut pousser à l'association
non,
à faire
vrai.
Un livre, mais...
Non, c'est vrai. Là, il s'agit effectivement... Ah ben, alors, est-ce que je réponds... Là, je réponds à au contraire d'une demande, en fait. C'est parce que j'étais un peu amoureux d'Anna Sommer. Anna Sommer, c'est une dessinatrice suisse, justement, tiens, qui fait des pages muettes et sans cases.
Mais, hein. Souvent en papier découpé.
Ouais, quand elle fait de la couleur. Sinon, elle peut faire aussi en gravure, au trait, comme ça. Oui, c'est très beau. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, pour lui déclarer ma flamme, un jour, je lui ai envoyé 5 pages muettes, sans cases, où en fait, il y avait un peu tout l'album déjà mis en place. C'est-à-dire, le principe, c'est que je lui courais après dans la rue, et puis elle partait, et puis je me perdais un peu dans les rues de la ville, et puis je me croisais moi-même. Il y avait déjà l'histoire du dédoublement.
Parce que le principe de l'album, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il est dans le titre, 676 apparitions de Kilofer. Kilofer se dessine, se met en scène. Le récit se nourrit presque de ses apparitions, et au final, l'album, une fois fini... Je ne sais pas si c'est toi qui as compté, je crois que c'est duo plutôt, il y a 676. Tu es représenté 676 fois, je crois.
Oui. Ouais, enfin, des fois, je compte une apparition, même si on voit un bout de coude, hein, quand même.
Ah.
Ouais, quand même.
D'accord, il y a débat.
Il y a 676 présences, on va dire.
Visage.
Non, pas visage, justement, présence.
Enfin, tu présence, lui envoies ses pages et tu lui donnes, donc j'imagine.
Oui,
ça
oui,
fait encore des originaux qui
oui,
ont
oui.
disparu.
Oui.
Donc,
ah non, bah, je pense qu'elle les a conservés. Elle aurait intérêt à les conserver précieusement parce que c'est vraiment la matrice du truc. Puis c'est des belles pages. Hein,
tu crois que je pourrais la contacter pour qu'elle nous les confie, pour qu'on les publie dans Nicole ?
Non, c'est pas publiable. Et puis attends, l'histoire n'est pas finie. C'est qu'elle elle m'a répondu. En fait, j'ai pris un râteau. Elle m'a renvoyé 5 pages. Très belles. Des belles pages, et j'ai 5 beaux originaux comme ça d'Anna Sommer en papier découpé pour me dire non merci, j'ai un mec. Et donc j'étais un peu frustré quoi, avec cette histoire qui bon.
Bah, c'est mieux que l'amour hein, là, en l'occurrence.
Ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que je lui dois une fière chandelle.
Il en reste quelque chose.
Non mais en fait ce qui est marrant c'est que j'avais un peu pris son style à elle pour lui déclarer ma flamme. Et en fait, je l'ai complètement intégré. Finalement, j'en ai fait mon truc. Et du coup, cette frustration, ça a généré ce bouquin, quoi. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, je me dédouble quand je rencontre une fille. C'est ça, le truc. Et on en rencontre beaucoup. C'est plein de filles. Ça. Hein, c'est fatigant. Le monde est plein de filles, quoi.
C'est la première fois où tu mets en place ce système où tu te représentes, mais ce n'est pas du tout dans le cadre d'une autobiographie, c'est plutôt dans quelque chose qui est lié au fantasme, voire presque à une mise à distance ironique de toi-même, qui va aboutir par la suite, progressivement, à Kilofer, auteur, qui devient Kilofer, un personnage.
Mmh. Ouais, sauf que en fait, dans cet album 676, Apparition, il est en fait beaucoup moins autobiographique que celui-là. Celui-là, le dernier, il est factuellement, tout ce que je raconte est vrai, quoi.
Ou presque.
Non, tout.
Non, je ne vais pas revenir sur l'anecdote à laquelle tu me mets. Ah ouais. Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Ça ne se passait pas au café, effectivement, c'était au téléphone. Je m'en souviens très bien. Mais c'est tout est vrai, même quand il est là. Alors là,
cette parenthèse étant refermée, tu décides à un moment donné quand même de faire de toi un personnage. C'est justement en n'étant pas dans une représentation autobiographique, réaliste. Dans Lapin, il y a plusieurs histoires que tu publies où tu te mets en scène avec ta copine de l'époque ou, je ne sais plus, il y a des souvenirs d'enfance aussi.
Ah ouais.
Mais à partir de 676 apparitions, on a vraiment la sensation que Kilofer devient un personnage dont l'auteur est Kilofer.
Oui, c'est ça.
Et c'est intriguant parce que, moi qui te connais et qui t'ai vu évoluer, je me demande dans quelle mesure le personnage n'a pas fini à changer aussi, non pas l'auteur pour le coup, mais l'homme qui le fait. Il t'arrive de te réfugier parfois derrière ton personnage.
Tout le monde fait ça, non ?
Désolé, je suis qui le fait.
Écoute, j'ai pas trop le sentiment de faire ça. Enfin, on me fait souvent ce reproche. Enfin, ce reproche.
C'est pas un reproche.
Non, je sais que pour toi, c'est pas un reproche, mais. Pour ma copine, par exemple, ça peut l'être.
C'est pas ton Kilofer.
Ouais. Elle me dit pas ça comme ça, mais oui. Non, je comprends, mais moi, j'ai pas trop ce sentiment-là. Hein.
Donc, t'as pas la sensation que tu joues avec ta propre image, avec ce que tu renvoies aux autres.
Tout le monde fait ça. Quand tu dragues, tu joues avec ta propre image. Quand tu parles à quelqu'un, t'essayes de le convaincre, t'essayes d'avoir raison.
Là, ce qui est particulier, c'est que tu te...
Sauf que moi, il se trouve qu'en plus, je suis comme tout le monde, sauf qu'en plus, effectivement, je me sers de... Ce truc que je fais avec les gens, je le fais aussi en bande dessinée, c'est tout. Mais je suis comme tout le monde à ce niveau-là, je crois.
Mais t'as pas l'impression que ce jeu, il brouille même les limites réelles?
Mais elles sont brouillées, elles sont brouillées. L'autobiographie, la fiction, c'est jamais pur, tout ça, hein. Tout ça est mélangé, toujours. Mais en fait, moi, si je... C'est encore un truc que je dois à quelqu'un, c'est à Charles... Je dois ça à Charles Berberian, qui un jour... j'essayais de faire de la bande dessinée, mais je crois au fond que je ne suis pas vraiment un auteur de bande dessinée. Pendant des années, j'ai dit, je vais arrêter la bande dessinée. J'ai longtemps hésité. Bon, maintenant, je ne le dis plus, ça va, j'en fais quand j'ai envie d'en faire, et puis basta, quoi. Je me demande plus si je suis un auteur ou pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein ? Rien. Oui, j'étais là en train de me poser des questions, de me dire « Ah tiens, je cherchais un personnage, tout ça ». Je trouve ça très ennuyeux. Et puis, surtout un truc qui est par-dessus tout ennuyeux, c'est « Et maintenant, qu'est-ce que je vais raconter ? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» quoi. Je ne supporte pas.
Oui, et
c'est Charles qui m'avait dit « Quand tu as un problème avec un personnage, il y a un truc très simple, tu te dessines toi-même. » Ah ouais. Et c'est effectivement, il a raison. Merci Charles, ça a très bien marché.
Ouais. T'as dit ça. Ouais. C'est marrant parce que lui, il a assez peu mis en pratique en réalité.
Bah, si, monsieur Jean, si tu regardes, il lui ressemble quand même un petit peu. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Le gros tarin, là.
Oui, le gros nez, oui. D'accord. Donc le livre pour lequel tu as reçu le prix de la ville de Genève, qui est donc doté, rappelons-le, de 10 000 francs suisses, hein, c'est quand même merveilleux. Il est aussi un peu sur ce principe, c'est presque le prolongement de 676 apparitions 10 ans après, quasiment.
Ouais, il y a 10 ans.
Ah ouais. Sauf que ce livre-là, il est particulier, puisque là encore, c'est une réponse à une demande, je dis plutôt demande que commande, puisque pendant, je ne sais pas combien d'années,
5 ans,
ok, tu as fait mensuellement une page de bande dessinée bénévolement pour Le Tigre.
Bénévolement.
Peut-être que d'ailleurs, les 10 000 francs suisses que tu as touchés
ouais, ça pourrait,
correspondent Est-ce que tu aurais touché
à peu près ça. Ça fait à peu près 200 euros. Là.
On n'est pas dans l'exceptionnel, mais finalement, on est dans le normal.
Oui.
Donc, chaque mois, tu faisais une page de bande dessinée, parfois, comme tu le montres, dans des conditions d'urgence qui...
Désolé.
Qui jamais ne viennent...
Ah si, quand même, des fois.
Ne viennent faire baisser la qualité. Non, je trouve pas. Et là où c'est réellement étonnant, ce livre, c'est qu'à aucun moment, moi, je savais qu'il y aurait un jour une compilation, que ça ferait un livre. Il se trouve que ce qui a décidé, évidemment, du livre tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'arrêt de la revue, Le Tigre, qui
non.
a cessé de
paraître. Non. Non, en fait, il se trouve juste que j'avais un nombre de pages suffisant. Ça me semblait correct. Et en fait, je voulais arrêter de faire ça. Et je voulais faire un bouquin. Et c'est, la revue s'est arrêtée en même temps.
C'est toi qui leur a donné l'impulsion nécessaire à l'arrêt de la revue.
Écoute, c'est un hasard merveilleux. Non, mais c'est vraiment tombé pile poil. Ils se sont arrêtés en janvier de cette année. Et juste quand je devais finir ma dernière page, parce qu'après, il fallait renvoyer le bouquin à l'imprimerie. Quoi.
D'accord.
Donc, c'est un hasard.
Ah oui, j'ignorais.
C'est
oui,
parfait.
C'est
quoi.
Oui, c'est assez parfait.
Non, et d'ailleurs, en fait, j'étais... C'est un très bon timing aussi, parce que j'étais angoissé. Je ne savais pas ce que j'allais faire après, quoi, pour Le Tigre. Parce qu'on a toujours travaillé ensemble et il était hors de question que j'arrête de bosser pour Le Tigre. Et j'étais angoissé, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et donc là, ils ont réglé le problème, Le Tigre n'existe plus, c'est excellent.
Le Tigre, l'existence même du Tigre était directement liée
à moi, enfin,
à toi.
Oui.
C'est dingue. Une partie du monde tourne autour de toi, en fait.
D'ailleurs, on a un très beau cadeau adhérent cette année, c'est des pages aussi parues dans Le Tigre d'un jeune auteur qui, en fait, c'est moi. Qui s'appelle Euxin, et dans un style très moebiusien, ça se revendique, c'est une espèce de continuation du garage hermétique de Jerry Cornelius.
C'était l'année dernière, ça, non ?
C'était l'année dernière ?
Ouais, c'était l'année dernière.
Mais il court encore, le cadeau.
Oui, je pense, jusqu'au 31
Donc,
décembre.
Adhérer à l'association, vous aurez cet album inédit.
Oui, qui est assez dingue.
Et inachevé, j'allais dire, mais même pas, parce qu'en fait, ça fait une... Enfin, vous verrez.
Non, parce que la forme narrative est assez libre, et comme dans le garage hermétique, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Là, ça s'est arrêté parce que tu en avais marre, a priori. Mais...
Non, c'est Raphaël qui en avait marre.
C'est Raphaël qui en avait marre, d'accord.
Il m'a dit, bon, il faudrait arrêter là maintenant, c'est bon.
En tout cas, ce qui est assez stupéfiant, c'est que lorsque j'ai vu ce livre arriver, il faut savoir que tu as rajouté, vis-à-vis de chaque page de bande dessinée, un dessin réalisé pour l'occasion, qui est inédit.
C'est ça, c'était une idée de Rupert Émulot. Parce que mettre toutes les pages ensemble à la suite, comme effectivement, il y a un mois de décalage. Et puis, comme ça se passe sur 5 ans, c'est vrai qu'on me voit changer de maison, de copine. On me voit grossir, me faire pousser la moustache, jamais maigrir. Hein.
Transformation physique. Alors, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est, là encore une fois, ton personnage qui évolue ? C'est assez, assez troublant. Parce qu'au début, tu es très proche du kilofaire de 676 apparitions. Et puis après, pour le coup, t'as un autre qui le fait.
Il y a des hauts et des bas. Hein. Ah si, c'est vrai que je maigris dans cet album à un moment, ouais. Bon, enfin bref. Et l'idée, c'était de mettre des dessins en vis-à-vis pour ralentir le rythme. Parce que sinon, on passait d'une page à l'autre très vite, comme ça, pour marquer le temps qui passait, quoi. Ça, c'est une idée de Rupert Émulot. Le format, c'est une idée de menu. C'est lui qui m'avait dit, moi, j'avais pas imaginé faire comme 676 apparitions. C'est lui qui m'a dit, si, ce serait bien de le faire en grand comme 676.
Oui, c'est une très bonne idée parce que ça le relie à 676 apparitions.
Ouais, c'était une
en
très
plus,
bonne
c'est
idée.
Pratique, on peut les ranger côte à côte dans la bibliothèque. Ça, c'est quand même.
Comme, on peut faire une étagère spécialement pour moi ou un truc comme ça.
Et donc, le plus troublant là-dedans, c'est que, alors même que tu as fait ces pages sur 5 ans dans des états d'esprit très différents, dans des registres humoristiques ou narratifs très différents aussi. Le plus fou, c'est la cohérence de l'ensemble.
Je suis cohérent.
Mais je pense que tu es cohérent aussi parce que c'est le personnage qui le fait, qui vient faire l'unité du livre.
Oui, je connais un peu mon métier. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc de presse, hein, quand même. C'est un rendez-vous avec le lecteur. Moi,
ça se sent très peu, ça, ah bon je trouve. Ouais.
Ah bon?
On pourrait presque croire que tu l'as réalisé sur 1 ou 2 ans et que tu joues avec le temps.
Ouais. Non, mais par rapport à la cohérence dont tu parles, moi j'avais envie de que ce soit une chronique comme ça ou de donner rendez-vous au lecteur qui soit chez lui dans cette page, qui retrouve un peu la même chose, quoi. Que ce soit du coup la cohérence, elle vient de là, quoi. Que ce soit comme un rendez-vous avec un copain. Tu sais à qui tu vas avoir affaire, tu sais un peu ce qui va se passer. Enfin, bien sûr, il vaut mieux qu'il y ait des surprises, sinon on s'emmerde, évidemment. Mais voilà, quoi. Du coup, ça fait un truc cohérent.
Mais ce qui pouvait paraître parfois outrancier dans la publication, dans Le Tigre, on disait, oh, quand même, il va pas oser ça. Puis si, bon, c'est, parfois, il est à court d'inspiration, donc il peut se représenter face à la panne sèche. Mais ça reste, entre guillemets, un gag.
Non, non, alors ça, je ne l'ai pas fait, le manque d'inspiration.
Merde,
c'est juste que je suis en retard. Je dis merde, je suis à la bourre. En fait, c'est une page que j'ai faite, j'ai fait juste une image et puis je l'ai dupliquée 8 fois.
Hein. En changeant le lettrage.
Alors non, j'ai changé le lettrage pour l'album. En fait. Parce que oui, il y a eu quelques corrections,
d'accord.
Mais elles ne sont pas très nombreuses. Et c'est vrai que ouais, sur cette page-là, je me suis dit, ah tiens, ce serait drôle que tout ce qui se passe soit dans le lettrage, dans le merde. Quoi.
Ouais, c'est vachement bien.
De dire je suis à la bourre, mais en même temps, j'ai passé beaucoup de temps à faire le lettrage. Quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, il y a toutes les pages qui sont parues dans le titre, dans le bouquin, sauf une, en fait, où là, j'étais vraiment à la bourre et je m'étais servi d'un... Enfin, c'est vraiment une page à chier, quoi. Bref, je l'ai pas mise. C'était la deuxième que je faisais. Donc, ouais, un travail soutenu, quoi, quand
T'as
même.
T'as été remplacé aussi à 2 reprises oui. Par François Hérol et puis par Rupert.
François Hérol, qui me connaît bien en tant que personnage, qui avait déjà fait un petit pas de mouche sur moi, hein, parce que... Je suis effectivement également un personnage de bande dessinée, mais pas seulement dans mes bandes dessinées, oui. Dans les bandes dessinées des autres. C'est-à-dire, je suis un peu une muse pour François Hérol, à vrai dire.
Non, mais c'est pour ça que je te dis que le personnage qu'il offre contribue aussi et a donné beaucoup de cohérence à ce livre, mais peut-être même à ta carrière.
Oui, parce que là, ce qui va se passer, il y a Lewis qui va faire une série de science-fiction avec plusieurs dessinateurs, et il m'avait demandé de designer un des personnages, et je n'étais pas très inspiré. Toujours le problème du personnage, quoi. Et ne voyant pas de choses arriver, il m'a proposé de lui-même, j'y avais pensé, mais je n'avais pas osé lui proposer, de me dessiner moi-même pour ce personnage, pour cette série. Et donc, ce qui se passe, là, il m'a envoyé une page. Il y a d'autres dessinateurs qui vont me dessiner. Je suis un personnage de la série. Et je m'appelle Réfo, comme Capitaine Réfo, un truc comme ça.
C'est quoi, cette série ?
Écoute, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est un truc de grosse série de SF avec des vaisseaux spatiaux, des monstres et tout.
Parce que vous aviez fait un projet de science-fiction avec Lewis au tout début, qui avait échoué.
Qui avait échoué.
A intéressé un éditeur, mais les pages étaient pas mal.
Bah oui, c'était pas mal.
Donc en fait, à chaque fois, tu fermes la boucle. Hein, c'est comme avec cette histoire de personnage, de mise en abîme de toi-même. Ça finit par contaminer ta vie qui se boucle. Elle-même, c'est une espèce de logique infernale.
Mais je vais finir par contaminer le monde entier. ça va mal se finir, cette affaire. Il y aura des kilofers partout, ça va être l'enfer. Un peu comme dans le film, là, tu sais.
Je sais pas.
Mais si. Alors, il y a John Malkovich, ouais.
Oui, il y a un côté comme ça.
Je viens de cette émission.
C'est vrai.
Il y a John Malkovich, non, mais je pensais aussi à... avec Neo, là, Matrix.
Donc, sur quoi, maintenant, est-ce que tu as, en parallèle, donc, développé avec la galerie Anne Barrault et puis d'autres sollicitations, un travail autour du dessin, vraiment du dessin quasiment non narratif
Le dessin dans l'absolu.
Le dessin dans l'absolu.
Pour épater la galerie.
Qui s'inspire souvent de la matière, où là, pour le coup, tu peux vraiment donner libre cours à tout ton savoir-faire technique. Mais tu nous disais tout à l'heure que tu avais ce projet avec Raphaël Metz, et puis j'ai lu quelque part que tu avais en fait énormément de projets en bande dessinée, puisque j'en ai compté 3.
Il y en a plus que ça. Donc il y a le truc avec Lewis, avec Raphaël.
Mais si avec Lewis, tu vas dessiner ? Ou tu as juste donné le personnage ?
Non, je vais dessiner un album.
Ah bon, d'accord.
Il y a un projet avec Rupert et Mulot au décor, et avec Imius, Sébastien Lumineau. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, Rupert Mulot, ils aiment bien faire bosser les autres, en fait, organiser, jouer avec les gens, un peu comme avec des marionnettes. Et ils ont fait un truc qui s'appelle le bras de fer et un autre truc qui est peut-être un peu plus connu, qui est sorti chez Delcourt.
Maison Close.
La Maison Close. Et le principe, c'était qu'ils fournissaient des décors à des dessinateurs, à des auteurs, qui s'ébattaient là-dedans. Quoi. Et nous, on s'est vraiment bien amusés avec Sébastien Lumineau et on a décidé de continuer le truc, quoi. Mais de le générer nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui demandons des décors à Rupert et Mulot et dans lesquels on s'ébat.
Parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que donc, Rupert et Mulot aiment bien jouer avec les gens, mais qu'il le fait aussi, puisque la revue Lapin, dont tu as été le rédacteur en chef pour un numéro, c'est en fait un exercice de style où tu es allé chercher différents auteurs pour... Ils mélangent leurs dessins au tien. Donc il y a Burns, il y a Ludovic de Burm, il y a Sébastien Lumineau, il y a Druyet, il y a d'autres.
Marchalot.
Donc là-dessus, toi aussi, tu aimes bien ce type de contraintes qu'on retrouve.
J'aime les gens. Ah oui, je crois qu'on peut le dire.
Qu'on retrouve aussi dans ton travail au sein de Loubapo.
Oui, enfin, je suis moins actif
maintenant, moins.
À Loubapo.
Bon, d'ailleurs, tant mieux, c'est moins intéressant, je trouve, le Oubapo que l'Oulipo, de toute façon. Mais, ouais, c'est comme ça, en passant. Mais, je ne sais plus ce que je veux dire, du coup.
Allez, moi, je t'ai coupé. T'as dit une méchanceté, et puis voilà.
Voilà, c'est, j'en suis désolé.
Oui, j'aime jouer avec les gens. Ben, vous l'avez peut-être vu, mon lapin, c'est un numéro vraiment sur le dessin. C'est un peu le parent pauvre de la bande dessinée en ce moment. Il y a un snobisme que je déteste en ce moment en bande dessinée. Des auteurs qui sont là, ouais, mais le dessin, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on raconte, tout ça. Que dalle, c'est des conneries, c'est hyper important le dessin. Je déteste ça.
Non, mais un dessin pauvre peut apporter quelque chose, sûr, comme chez Copy, mais effectivement, c'est okay, l'attitude qui est contestable.
Et donc, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et là, j'ai fait avec ce lapin un numéro vraiment de dessin, quoi. J'avais envie à la fois de tout dessiner, puis j'avais envie d'inviter des gens, donc je me suis dit, bah, faisons les deux. Invitons des gens, mais dessinons avec eux.
Ce qui est marrant, ça marche rarement. Hein. Et pourtant là,
bon, ça marche rarement.
Bah, ça marche assez rarement, surtout quand les gens ont des dessins qui ne sont pas assez éloignés l'un de l'autre. Mais les pages que tu as faites avec Burns, bah, sont assez impressionnantes, parce que, alors même que vos dessins bien, sont extrêmement dissemblables, il est parfois difficile, au premier coup d'œil, de différencier.
Oui, puis la technique, ça n'a rien à voir. Lui, c'est du pinceau à l'encre. Moi, c'est du crayon de couleur noire.
Avec des volumes.
Ça s'intègre très bien.
Beaucoup de volume, beaucoup de lumière, alors que lui, c'est très posé.
Ouais, ouais. Moi, j'avais envie qu'on fasse carrément un bouquin comme ça, mais je n'ai jamais osé lui demander.
Ah, bah, je vais lui demander pour toi. C'est comme ça, je pourrais le publier, ce serait parfait.
T'es mignon.
Donc, c'est quoi les autres projets, alors?
Donc, on avait dit Lewis, Raphaël Mentz, Lumino, Rupert Mulot. Ah oui, il y avait un truc avec Paco Ntielman, mais finalement c'est tombé à l'eau, heureusement.
Tu veux dire.
C'était un truc sur les fous littéraires dans la collection de Van der Meulen au Lombard.
Mais ça a déjà été fait, il y a eu un dictionnaire des fous littéraires.
Ouais, mais là, il s'agissait de faire une bande dessinée sur les fous littéraires. Et je ne voyais pas bien comment ça pouvait marcher.
C'est bizarre comme idée.
Ouais. Et donc c'est tombé à l'eau et j'avais pas un autre truc. Un truc qui est.
Pour Lapin et pour l'association, tu n'as rien prévu?
Ah oui, si, bien sûr, un truc porno. J'aimerais bien faire un vrai truc porno. Mais,
mais quoi, chez les requins marteaux dans la collection BDQ ou...
Non. C'est vulgaire.
Pour l'association.
Ouais, pour l'asso. Ouais.
Ça en est où l'association d'ailleurs aujourd'hui? Quelle est ton implication dans la structure?
Elle est totale. Mais j'y vais tous les jours.
Tu travailles là-bas?
J'ai installé mon atelier là-bas et j'y suis. Alors des fois, je ne travaille pas du tout pour l'association. Des fois, je passe ma journée à faire des trucs pour l'asso. Ça dépend.
Mais de quel ordre? Éditorial?
Ah oui, de tous ordres. Enfin, ouais, je fais pas le ménage, quoi, disons. Mais après, je fais tout le reste. Enfin, je peux. Non, c'est vrai que je fais pas de paquets, de trucs comme ça. Ouais, c'est vrai.
D'accord, mais vous fonctionnez de façon collégiale, avec un comité de lecture?
Oui, il y a un comité de lecture. On se voit à peu près tous les deux mois. C'est assez régulier. Et après, c'est un comité de lecture, hein, c'est pas un comité éditorial. Après.
C'est-à-dire? Quelle différence?
C'est-à-dire que. La différence, c'est qu'un comité éditorial, il décide de ce qui va sortir. Là, c'est un comité de lecture qui donne son avis sur des bouquins. Après, à charge pour nous, en interne, c'est-à-dire Lewis, David et moi, principalement, et Céline, et puis les salariés aussi peuvent donner leur avis. On peut décider que non, on ne le fera pas, finalement, parce que ça va nous coûter un bras et que ça va nous rapporter une cacahuète, par exemple, et que ce n'est pas le moment. Parce que des livres à perte, on n'en manque pas, vous voyez. On a ce qu'il faut. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des livres à perte, il faut faire aussi à côté des livres à rapport. Tu connais le problème? Tu es un peu éditeur, toi-même.
Oui, je connais bien le problème. Alors, est-ce que tu penses que l'expérience de l'association est vouée à une forme d'extinction ou,
Oui, comme toute chose.
D'accord. À quelle échéance tu vois ça?
2 semaines, 3 semaines, à peu près.
C'est vrai?
Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que depuis qu'on est revenu aux affaires, on n'a fait que perdre de l'argent, hein, effectivement.
Est-ce que c'est pas lié aussi à une forme d'usure et puis aussi à un contexte éditorial qui a complètement changé?
Et un contexte même économique, hein, la crise. Puis alors le contexte éditorial, c'est vrai que c'est une mauvaise période parce que tout le boulot qu'on a fait de défrichage, tout ça, ça y est, les grands éditeurs, ils ont très bien intégré ça, le roman graphique, ok, c'est bon. Donc nos plus grands... Nos auteurs les plus bankable, si j'ose dire, maintenant ils sont tous chez des gros, quoi, finalement, que ce soit Delille, Satrapi, elle fait plus de bande dessinée de toute façon.
Riyad.
Joanne, on a beaucoup
plus de
Joanne Sfar. Et voilà, quoi, donc ils sont ailleurs. Et en revanche, les petits jeunes talentueux, quand ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur maison d'édition, c'est con.
Ben oui, parce que vous leur avez donné l'exemple.
Ben oui. Ils font comme nous. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, mais en même temps, ils font chier, quoi, un peu. Donc, on est un peu entre les deux, c'est pas toujours évident. Bon, on a encore des auteurs qui se vendent, heureusement. On a encore des petits jeunes qui viennent nous voir, mais c'est un moment difficile.
Et vous avez été un exemple. Vous avez mis au point... vous avez démontré qu'il y avait d'autres formules pour faire de l'édition.
Mais là, je trouve qu'ils exagèrent. Il y a trop de maisons d'édition, quoi. Il y en a une par mois qui... Moi, franchement, mais c'est vrai, quoi. Il y a trop d'éditeurs, quoi. Il faut arrêter. Non, mais il y a une surproduction de livres et d'éditeurs.
Mais qui doit arrêter?
D'abord Cornelius, je dirais, qui nous taille des croupières régulièrement et ça commence à bien faire. Non, mais tous ces trucs-là, tu vois, enfin, je sais pas. Là, j'étais à Colomiers, j'ai acheté un bouquin, je savais même pas qu'il existait, cet éditeur. Je sais même pas comment ça s'appelle.
T'as acheté le livre, ça veut dire que c'est bon. Et puis, si mais tu l'as acheté, putain. C'est qu'il n'est pas passé à l'association.
Mais ouais, je sais. Non, mais je voulais le faire, ce bouquin. Je l'avais acheté à Toronto. C'est un auteur canadien. Et je voulais le faire, puis il est trop tard.
Ah, faut être actif.
Oui. Je suis vieux. Tu vois,
vous avez servi d'exemple, c'est très beau. Par contre, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que tu fais partie des rares auteurs qui aient de l'influence, qui intéressent les gens, dont le travail est admiré, mais qui n'est quasiment pas copié.
Ah oui, c'est vrai.
Tu n'as pas de suiveur.
Oui.
T'as une idée là-dessus, sur le pourquoi du...
Oui, bien sûr, oui.
C'est que c'est dur de faire du kilofer.
Il faut être très fort.
Il faut être très fort. Hein. La technique, non, parce que si tu veux Blutch, il est très fort aussi, mais il y a des gens qui ne se privent pas de le copier, mal. Mais...
Oui, oui, mais... non, mais je crois que je suis moins connu que Blutch aussi, peut-être aussi, non.
Non, je pense que tu es assez connu, malgré tout.
Oui, mais pas...
Enfin, merci, kilofer. Merci à vous.
Merci à vous.